les enfants de Chronos.
Bonjour à tous, je suis Germain Cuvillier du service départemental d'archéologie de l'Oise. Alors bienvenue dans notre cinquième et dernier épisode de la série consacrée au site de Chanlieu. Pour ceux qui n'auraient pas entendu les premiers épisodes, rappelons que nous avons présenté plusieurs sites historiques et archéologiques se trouvant sur le territoire du hameau de Chanlieu. Ce hameau est surtout connu d'une part pour ses ruines gallo-romaines et d'autre part pour son église en ruine. Il est situé au sud de la forêt de Compiègne, sur le plateau qui domine la vallée de l'Automne, et il fait désormais partie de la commune d'Orhuy. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au camp des chars de Chanlieu. En effet, ce hameau, et nous allons voir en quoi, est étroitement mêlé à la naissance des chars de combat lors de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, à proximité des ruines, le long de la chaussée Brunehaut, une stèle rappelle cet événement. Cette stèle fut inaugurée le 28 mars 1923 par le général Jean-Baptiste Genestienne. Ce dernier a joué un rôle déterminant dans la naissance des chars d'assaut qui vont bouleverser les données tactiques lors de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi, pour évoquer l'histoire du camp des chars de Chanlieu, il faut en fait d'abord revenir sur le parcours du général Estienne, et donc sur la naissance des premiers chars. Estienne est originaire de Lorraine, et comme beaucoup de polytechniciens de son époque, il choisit de servir dans l'artillerie, considérée comme l'arme savante. Alors, première qualité d'Estienne, c'est un esprit ingénieux, qui est féru de technique. On lui doit plusieurs inventions, dont un collimateur et un télémètre optique. Par ailleurs, il milite pour l'utilisation de nouvelles technologies, comme celle du téléphone, pour transmettre les corrections de tir aux batteries. Deuxième qualité, c'est un pionnier en matière de stratégie. Il voit tout l'intérêt que l'on peut tirer de l'aviation pour l'observation des lignes ennemies, et plus tard, de la nécessaire présence des chars dans l'assaut. Dans cette optique, il participe avant-guerre à la création d'une section d'aviation militaire à Vincennes. Et au début de 1914, il crée une section d'aviation d'artillerie, dont l'usage, hélas, ne sera pas généralisé. En août 1914, il est placé à sa demande à la tête d'un régiment d'artillerie où il va acquérir une solide expérience du front et connaître les conditions de combat particulièrement éprouvantes pour l'infanterie. Colonel commandant l'artillerie du 3e corps devant Verdun, il est promu général en août 1916 avant d'être désigné pour prendre en main les destinées d'une artillerie considérée comme spéciale car elle fait l'utilisation des premiers chars français. Parce qu'elle doit se trouver en première ligne des combats avec l'infanterie, le général Estienne va la nommer l'artillerie d'assaut. Alors soyons clairs, Estienne n'est pas l'inventeur des chars blindés. C'est en fait les Anglais qui les premiers ont utilisé des chars blindés, notamment en 1916 dans la Somme. Mais le général Estienne a coordonné et animé la recherche puis l'expérimentation avec les chars. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, et pour le petit clin d'œil chauvin, c'est lui qui a imposé le terme de char. Il refusait l'emploi du mot anglais « tank ». Et pourtant, le mot « tank » avait été bien choisi par les Anglais, pour faire croire aux Allemands qu'il s'agissait de simples réservoirs d'eau. Traduction première du mot « tank ». Le général Estienne a surtout su convaincre le commandant en chef des armées, Joffre, de l'intérêt que représentait la mise au point et l'utilisation d'un engin capable de franchir tous les obstacles, un engin qui peut, grâce à son armement et à son blindage, accompagner efficacement l'infanterie lors des offensives, parce que le char est plus mobile qu'une artillerie classique. Mais alors, comment en est-il venu à s'intéresser au char? En fait, c'est qu'il est très impressionné, à l'époque, par les pertes causées à l'infanterie par la puissance des mitrailleuses allemandes. Et il est convaincu que la seule riposte efficace est le blindage. Encore faut-il réaliser un engin blindé capable d'avoir une puissance de feu suffisante pour soutenir l'infanterie. Il connaît l'existence des tracteurs Caterpillar Holt et découvre l'utilisation de ce type de tracteur à chenilles par les Anglais dans la Somme où il est alors stationné. Mais il doit lutter contre le scepticisme de ses supérieurs pour imposer ses idées. Cependant, il réussit à convaincre, je le disais, Joffre et le reste de l'état-major de financer la mise au point et la production de chars blindés. Il faudra quand même attendre 1916 pour qu'une commande soit passée auprès de deux entreprises concurrentes. L'entreprise Schneider, au Creusot, et la compagnie des forges et aciéries de la marine de Saint-Chamond, qui devront, après mise au point, livrer chacune 400 chars. On se retrouve alors avec deux modèles voisins de chars lourds. D'une part, on a le char Schneider, d'un poids de 13,5 tonnes, qui est équipé d'un moteur de 60 chevaux, d'une étrave à l'avant, armé d'un canon et de deux mitrailleuses, servi par un équipage de 6 hommes. Et d'autre part, on a le char Saint-Chamond, plus grand, plus lourd, d'un poids de 19 tonnes environ, qui est équipé d'un moteur de 90 chevaux, armé d'un canon et de 4 mitrailleuses. Il est servi par un équipage de 9 hommes. Cependant, la livraison de ces premiers chars prend du retard. Et ce n'est qu'en 1917 que se font les premiers engagements de ces chars lourds, notamment en avril 1917, dans l'Aisne, près de Berry-au-Bac, lors de l'offensive du chemin des Dames, et lors de l'offensive au Moulin de la Faux en mai 1917. Alors ces premiers engagements ont surtout, dans un premier temps, mis en lumière les limites techniques et les erreurs de conception dont souffraient les blindés. Ce sont des engins sous-motorisés qui sont peu maniables avec une absence de pièces de rechange. Le Saint-Chamond semble cumuler les problèmes. La surface portante des chenilles apparaît très insuffisante et son toit plat le rend vulnérable aux grenades. Les premiers échecs s'expliquaient également par un manque de coordination étroite entre l'infanterie, l'artillerie et les chars, et par l'utilisation des chars non pas en masse, mais en trop petit nombre. Bref, on ne savait pas bien utiliser cette nouvelle arme et de nombreux chars furent détruits. Pour vous donner une petite idée, sur le chemin des Dames, sur 128 chars qui prennent part à la bataille, 57 sont détruits et 64 tombent en panne ou s'enlisent. Le général Estienne, conscient des limites d'emploi des chars lourds et avant même les premiers engagements, avait cherché dès 1916 à mettre au point un autre type d'engin. Un char mitrailleur mobile, très léger, capable de mieux passer les obstacles du champ de bataille et chargé d'accompagner plus efficacement l'infanterie dans l'attaque. Après des études de faisabilité menées avec l'enthousiaste constructeur de véhicules Louis Renault, il soumet son projet à l'état-major d'un char plus léger, plus maniable et plus facile à fabriquer. Ce sera le char Renault FT. De faible tonnage, il pesait 7,5 tonnes, était équipé d'un moteur de 40 chevaux et armé soit d'une mitrailleuse, soit d'un canon semi-automatique placé en tourelle. C'était une nouveauté à l'époque. Autre innovation, son équipage se réduisait à deux hommes, un pilote et un tireur. Le tout pour un coût de fabrication largement inférieur à celui des chars lourds. Le général Estienne aura pourtant beaucoup de mal à obtenir l'accord de l'état-major pour commander ses chars Renault légers. Mais l'homme est très tenace et très persuasif. Face aux objections tatillonnes d'un état-major qui doute de l'efficacité des chars, l'argumentation d'Estienne est simple et percutante. « D'accord, nous pouvons modifier et perfectionner ces chars, dit-il, mais ce sont de nouveaux délais et partant des milliers de morts inutiles. » En fait, la grande et terrible question qu'il pose de toute sa force et de tout son poids est celle-ci. Devons-nous construire des chars imparfaits et gagner la guerre, ou attendre l'engin idéal en la perdant ? Une expérimentation officielle menée le 14 mars 1917, justement au camp de Chanlieu, n'est pourtant pas totalement couronnée de succès. Le char léger, piloté par Louis Renault, lui-même, finit par tomber en panne. Et pourtant, une première commande est finalement lancée en mai 1917. Ces chars Renault, malgré bien des aléas, finiront par être utilisés plus massivement à la fin de la guerre, notamment à partir de juin 1918, sur toutes les offensives en Picardie et en Champagne. Accompagnant plusieurs victoires, le petit char Renault FT sera alors surnommé le char de la victoire. Plus de 3500 de ces chars seront construits entre 1917 et 1918. Compte tenu de son succès, ce char léger équipera par la suite de nombreuses armées étrangères, à commencer par celle des États-Unis. Il sera utilisé jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Si on examine ce qui s'est passé dans l'Oise, du point de vue des chars, 163 chars Saint-Chamond et Schneider seront utilisés en appui de l'infanterie, notamment lors de l'importante bataille du Mât, en juin 1918. Puis ce seront une trentaine de chars Renault au niveau de Nampsel, en août 1918, pour aider à repousser la dernière grande offensive allemande. Ailleurs, le général Foch dispose de 730 chars Schneider, Saint-Chamond et Renault pour repousser les Allemands au-delà de la Marne, entre Château-Thierry et Dormans, le 18 juillet 1918. L'armée allemande a elle aussi essayé d'utiliser un modèle de char qu'elle a fait mettre au point, ainsi que des chars britanniques Marx récupérés pendant les combats, mais il est trop tard. Le 26 septembre 1918, l'armée américaine engage à son tour son Tank Corps dans l'offensive Meuse-Argonne. Ces séries d'événements feront de cette nouvelle artillerie l'un des symboles de la victoire de 1918. Mais revenons-en au camp des chars de Chanlieu. Pourquoi créer un camp des chars, particulièrement en Chanlieu ? Ce lieu, en fait, tenu secret, a été choisi après des reconnaissances en septembre 1916 par le général Estienne lui-même. Il l'offrait de nombreux avantages. Il était situé à proximité du front, mais aussi à proximité de Paris et du grand quartier général, d'abord basé à Chantilly, puis à Beauvais. De plus, le secteur de Chanlieu offrait un camouflage naturel grâce à l'épaisse forêt de Compiègne. Le camp a servi à la fois de lieu d'instruction individuelle et de formation des unités, mais c'est également une sorte de prolongement de l'usine au front pour la mise au point technique des chars. Enfin, le camp de Chanlieu est équipé d'un terrain de manœuvre pour s'exercer à faire évoluer les chars en coordination avec l'infanterie. Si on doit faire une rapide description du camp, voilà le schéma auquel il obéit. Une route circulaire suivait la lisière de la forêt et desservait toutes les baraques. Les chars étaient parqués dans les bois face aux baraques de chaque groupe. Par ailleurs, un chemin de fer longeait la circulaire et assurait les services du camp. Dans les champs, en terrain dégagé, de l'autre côté de la circulaire, le camp disposait d'un grand terrain de manœuvre où l'on avait reconstitué des tranchées défendues par des barbelés et des trous d'obus. Dans la forêt se trouvait également un champ de tir. Un peu plus à l'est, à l'entrée du camp, toujours dans la forêt, on trouvait d'autres baraques, dont des ateliers et d'autres parcs de stationnement, raccordés à un réseau normal de voies ferrées. Le camp était alimenté en eau par une installation de pompage, dont les bases de citernes existent encore. Sur ce site, les chefs de chars, les conducteurs, les mécaniciens, les canonniers et les mitrailleurs étaient formés sur les chars Saint-Chamond, Schneider et Renault FT. Maintenant, il faut s'imaginer l'extraordinaire atmosphère d'émulation qui régnait dans ce camp. Une atmosphère très proche de celle qu'on pouvait trouver chez les premiers aviateurs de combat. Ils ont le sentiment de constituer une élite, ou tout du moins d'être les pionniers d'une technologie nouvelle. Et ils viennent de tous les horizons. Et ce sont des volontaires issus de différentes formations de l'armée française. On y trouve beaucoup de cavaliers, des fantassins, des mécanos, qui sont bien sûr indispensables, et même des marins. En même temps que l'on améliore les chars et qu'on s'entraîne, il se crée une identité propre à un corps militaire, identité reposant sur un certain nombre de codes qui s'établissent rapidement. Ainsi, on porte, comme les aviateurs, une veste en cuir. On aime faire de rapides virées à Paris. Bref, on cultive un certain panache. Chaque groupe imprime sa marque sur la carrosserie de ses chars. Un chameau, la figure des Décatras. On donne aux chars des surnoms. On les décore de fanions. Enfin, on adopte un cri de ralliement, commun à tout le camp. Le Rik de Rik, une imitation phonétique du haka néo-zélandais. Pour la petite histoire, c'est apparemment un des militaires joueurs de rugby au Racing Club de Roubaix qui avait soufflé cette idée. Mais pour fédérer un tel ensemble humain hétéroclite, des codes ne suffisent pas. Il faut des personnalités d'exception, des meneurs, comme par exemple le commandant Louis Bossu, cavalier de dimension internationale. Il donnera d'ailleurs son nom à la route circulaire du camp. Citons également le commandant Louis-Léonard Chaubez, ou encore le lieutenant de vaisseau Claude Farrère, surnommé Bargonne, et bien sûr le général Estienne, qui établit son poste de commandement au niveau du château d'Auruy, soit à proximité immédiate du camp. S'il ne fallait citer que deux chiffres pour mesurer l'importance de ce camp, disons qu'au 1er août 1918, l'artillerie d'assaut compte plus de 1000 officiers et plus de 18 000 sous-officiers et hommes de troupes. Le camp de Chanlieu était bien devenu le berceau des chars de combat. On peut mesurer aujourd'hui combien le général Estienne fut un visionnaire dans sa façon d'envisager une guerre de mouvement où les véhicules blindés et l'aviation auraient un rôle primordial. Dans son rapport à sa hiérarchie, daté du 25 mai 1919, le général Estienne posait clairement les principes d'emploi des blindés qui, 20 ans plus tard, allaient être appliqués par l'armée, malheureusement allemande, avec le succès que l'on sait. Voilà ce qu'était la vision d'Estienne. La bataille commencera par une bataille de chars, disait-il. Les masses de chars seront éclairées par des chars estafettes rapides, des groupes de motocyclistes et des auto-blindés, accompagnés par leur artillerie très mobile et dotée d'affûts à moteur, dont le rôle sera d'attaquer les chars ennemis à distance. Les avions interviendront dans la lutte avec leurs bombes. Cette prophétie de celui qui est parfois appelé le père des chars, et qui n'a malheureusement pas été suffisamment entendu à l'époque, est incroyablement juste, puisque c'est bien cette combinaison d'engins blindés qui, avec l'aviation, deviendront l'artisan de la guerre éclair en 1940. Aujourd'hui, ne subsistent que quelques traces de ce camp, les baraquements et la plupart des infrastructures ayant disparu. Seul un monument commémoratif du camp des chars d'assaut, réalisé par le sculpteur Réal Delsart, rappelle à tous les enjeux et la mémoire de ce site. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, sachez que vous retrouverez facilement sur Internet des photos de ce camp, montrant surtout des chars en exercice, mais illustrant également la vie quotidienne. Vous trouverez aussi des informations, notamment dans l'article du colonel Michel Dichard, publié en 2001 dans les Annales historiques compiénoises. Il est consacré au camp de Chanlieu, au personnage du général Estienne et à la naissance des chars de combat. D'ailleurs, j'ai repris quelques passages de cet article dans l'exposé que je viens de vous faire. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres épisodes de l'émission Les Enfants de Chronos. En attendant, restons curieux.